Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Manque de solidarité, manque de réactivité, manque de coordination, manque de souveraineté industrielle, manque d'anticipation. Ils sont nombreux les reproches adressés à l'Europe et à ses institutions depuis le début de la crise du coronavirus. La faute à l'Europe est un refrain connu, mais certains de ces reproches sont peut-être justifiés, alors que d'autres sont peut-être plus injustes, nous verrons ça. Mais la réaction face à la pandémie a certainement mis en évidence des choses à améliorer, et une crise de cette ampleur permet d'en apprendre beaucoup sur le fonctionnement de l'Union à 27. Quelles leçons pour l'Europe après la pandémie de Covid-19 ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont ce soir en direct avec nous par téléphone. Marion Gaillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des questions européennes et des relations franco-allemandes, enseignante à Sciences Po et auteur du livre « Union européenne, institutions et politiques » aux éditions de la Documentation française. Nora Amadi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste des questions européennes, présentatrice de Vox Pop, le magazine hebdomadaire qui va à la rencontre des Européens le dimanche soir sur la chaîne franco-allemande Arte. Et Guillaume Clossa, bonjour.
Bonsoir Guillaume.
Vous êtes fondateur d'Europa Nova et de l'association Civico Europa. Des crises en Europe, il y en a eu depuis des années, notamment depuis l'élargissement à l'Est. Il y a eu la crise grecque, plutôt financière, et plus récemment le Brexit, crise plus institutionnelle et politique. Marion Gaillard, en quoi est-ce que le choc du coronavirus diffère de ce qu'on a pu connaître depuis une dizaine ou une quinzaine d'années?
Il diffère par son ampleur, sa rapidité, son côté totalement inconnu jusqu'à présent. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, j'entends. Si vous pouvez vous rapprocher un peu de votre appareil, ce serait mieux, mais voilà.
D'accord. Parce que les crises que nous avons connues, effectivement, comme la crise migratoire, ça a été une ampleur énorme aussi. Ça a été assez rapide, la montée en puissance. Mais là, le choc, on sait que le choc économique et social sera du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, effectivement, il y a une ampleur qui appelle des réponses beaucoup plus ambitieuses que d'habitude. Et comme, en général, vous l'avez rappelé en introduction, l'Union européenne est toujours critiquée pour faire trop peu, trop tard. Ça a été le cas sur la crise grecque, sur la crise migratoire. Donc, on va voir. Là, au final, on a un petit peu trop tard, et un peu pas assez, mais il y a quand même une réaction, et je pense que l'Union européenne a tiré en partie les leçons des crises précédentes, mais on va avoir l'occasion d'y revenir.
Nora m'a dit, les reproches que j'ai énumérés et qui sont faits à l'Union européenne depuis le début de cette crise, ils vous paraissent fondés ou plutôt injustes ?
Oh, je dirais qu'ils sont plutôt injustes. Après, il y a eu un retard à l'allumage, mais si je puis dire, à l'image de tout ce qui s'est passé dans les capitales européennes qui ont toutes eu un retard à l'allumage sur cette crise. Et ce n'est pas faute d'avoir été prévenus, notamment par nos voisins italiens dès début mars, qui nous disaient « attention, attention, nous aussi, nous avons réagi trop tard, ne faites pas nos erreurs ». Et on a la plupart de nos voisins, en France y compris, n'ont pas voulu voir. Donc, de fait, l'Union européenne, en fait, a réagi quelque peu tardivement sur l'aspect institutionnel des choses, c'est-à-dire qu'il aura fallu attendre plusieurs jours avant de voir un sommet européen des chefs d'État et de gouvernement réunis par visioconférence. Mais là où je rejoins ma consoeur, c'est que là où il avait fallu à l'époque, en 2008, attendre 3 ans ou 4 ans pour avoir le « whatever it takes » de Mario Draghi, qui avait fini en fait par calmer les bourses et les marchés et avait permis en fait au marché et à la crise non pas de se stabiliser, mais d'envoyer un signal clair sur le fait que la Banque Centrale Européenne et les institutions européennes feraient ce qu'il faudrait pour sauver les choses. Là, il aura fallu 10 jours. Donc, de fait, je dirais que c'est plutôt injuste, d'autant que même d'un point de vue strictement symbolique, et on sait que la politique est affaire de symboles, il y a eu un très mauvais signal d'envoyer. Ça n'aura pas été le fait des institutions européennes, avec les fermetures de frontières qui ont été faites de manière vraiment désorganisée, et on le voit d'ailleurs dans la question de la réouverture qui est en train de se poser et le déconfinement progressif, c'est les mêmes problématiques, tout comme les vols de masques, les problématiques de frontières fermées, donc avec des files d'attente, des voisins qui n'ont pas été prévenus, etc. Tout ça n'était pas le fait des institutions, mais bien des États eux-mêmes. Donc, si je puis dire, le procès à l'Europe est plutôt injuste, sachant qu'en fait, ce ne sont pas les institutions européennes qui ont souvent été pas à la hauteur des enjeux, mais bien les États.
Guillaume Clochat, ouais. qu'est-ce qui vous frappe dans cette crise et dans la réaction, peut-être en ordre dispersé, des pays de l'Union européenne ?
Plusieurs éléments. La première chose qui me frappe dans cette crise, comme Marion l'a rappelé tout à l'heure, qui est une crise mondiale, c'est le suivisme occidental sur la stratégie chinoise de confinement, parce que y avait un vrai sujet. On a déjà eu des crises sanitaires mondiales, mais on n'a pas forcément confiné au risque de créer ensuite une crise économique et sociale. Et donc, on a été entraîné dans un suivisme chinois et on n'a pas eu l'opportunité de discuter des stratégies qu'on aurait pu avoir, qui auraient pu être mises en œuvre. Donc ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième chose, c'est que les critiques que vous soulevez sont en partie justes, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand, en période de crise, on s'attend à ce que l'Europe réagisse comme une fédération. Et l'Europe n'est pas une fédération, comme Nora l'a rappelé, c'est sur beaucoup de sujets, faute de compétences, une coopération entre États. Et donc moi, ce que j'ai trouvé très injuste, c'est qu'on demandait à l'Union de se comporter comme un État fédéral avec un exécutif et un chef de l'État qu'elle n'a pas. Même les souverainistes, on est d'ailleurs dans une situation qui est très paradoxale. Ensuite, sur la réponse européenne, la coopération sanitaire, il y a eu un retard à l'allumage, avec 400 personnalités, on a fait début février un appel en disant attention, il y a un retard à l'allumage, c'est dangereux et il ne faut pas considérer que l'Italie sera seule à souffrir. Mais très vite, la Commission et les États membres ont organisé une coopération sanitaire qui était d'ampleur plus grande que celle qui a existé aux États-Unis ou au Brésil, qui sont pourtant des fédérations. Et où l'augmentation des prix a été moindre, où les échanges, où l'accueil des patients sur la base du volontariat a été très fort. Donc il y a une vraie solidarité sanitaire et humaine. Le deuxième élément de la solidarité, et ça c'est l'enseignement de la crise de 2008, et c'est vrai, comme Nora l'a dit, on a mis 4 ans à réagir jusqu'au Conseil européen de juin 2014. Moi j'étais au cœur de la présidence française, je ne cherche pas au Conseil européen, j'ai vu les difficultés qu'on a eues à se mettre d'accord. La réaction a été beaucoup plus rapide, mais elle a été beaucoup plus rapide parce que la Banque centrale, en fait, a vu dans la réalité sa capacité d'action se transformer grâce à la crise précédente. Et partout où on a une institution fédérale, en Europe, la réaction a été plus rapide et meilleure que là où on a juste la coopération entre les États. Et puis le troisième volet, et c'est là où moi je suis un peu préoccupé de la solidarité, le troisième volet de la fusée, c'est la solidarité stratégique et budgétaire. Est-ce qu'on va être capable ou pas d'avoir une relance budgétaire d'ampleur suffisante, et sans doute plusieurs relances budgétaires, un peu comme le New Deal aux États-Unis, hein. Le New Deal, c'est pas seulement un budget pour 7 ans, c'est un budget qui a en permanence été revu à la hausse pour faire face à l'évolution de la situation sur presque 8 ans. Et là, moi, je m'interroge, je suis très heureux du signal qui a été donné par Emmanuel Macron et Angela Merkel lundi dernier en disant voilà, on est prêt à un budget complémentaire de 500 milliards pour relancer l'Europe. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'est un signal très très fort. Et je ne suis pas convaincu qu'on y arrive.
Alors, on va évidemment parler de tout ça, mais Marion Gaillard, j'aimerais rebondir sur quelque chose que vient de dire Guillaume Clochat. Ce qu'il nous disait, c'est qu'on attendait de l'Union qu'elle réagisse comme une fédération. Et j'ai envie de vous suggérer, ce choc ne venait pas de l'intérieur de l'Union, c'est un choc extérieur pour la première fois. Est-ce que ça, c'est nouveau? Est-ce qu'on attend, justement, est-ce que c'est une piste pour l'Union européenne qu'il faut peut-être davantage se fédérer, y compris sur les questions de santé, qui ne sont pas une compétence européenne, on va le rappeler.
Alors, je vous remercie parce qu'en plus, je voulais rebondir effectivement sur ce qu'a dit Guillaume sur l'aspect fédéral, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on attend de l'Union européenne qu'elle réponde comme un État. Or, elle n'est pas un État. fédérale, elle est une union d'États qui garde leur souveraineté, leurs prérogatives. Et effectivement, dans le domaine de la santé, il faut le rappeler, la santé n'est que l'Union européenne n'a en matière de santé que ce qu'on appelle une compétence d'appui, c'est-à-dire très faible. Donc elle a une marge de manœuvre relativement faible. En revanche, là où je vais juste un tout petit peu diverger par rapport à ce qu'a dit Guillaume, c'est que elle a quand même réagi en partie comme une fédération, en ce sens que si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne ou aux États-Unis, qui sont des États fédéraux, en réalité, il y a eu aussi des réponses en ordre dispersé. Certaines entités fédérées, les Länder en Allemagne ou les États fédérés des États-Unis, ont confiné, d'autres non. Donc en réalité, on s'est un petit peu rapproché d'une fédération pour ce qui est de la réaction et de la liberté d'action, de la marge de manœuvre laissée aux entités fédérées. En revanche, là où on n'a pas du tout une réaction fédérale, c'est effectivement en termes de politique de santé, et puis ce dont parlait Guillaume à l'instant, on en reparlera, la solidarité budgétaire. Voilà, donc ça c'est vrai que ça nous interroge sur la nature même de l'Union européenne, et je rejoins quand même ce qui a été dit par mes deux confrères, c'est-à-dire le fait que les critiques sont très injustes en réalité. Il y a eu un retard, c'est indéniable, il y a eu des choses, mais comme l'a dit Nora, c'est plutôt le fait des États et pas de l'Union européenne. Et si on a la possibilité juste de rappeler brièvement quand même ce qui a été mis en œuvre depuis le début, je crois que l'Union européenne, vous me demandiez ce qui s'était passé par rapport aux autres crises et est-ce qu'on avait évolué, il y a rarement autant de décisions qui ont été prises en si peu de temps. C'est-à-dire que très vite, après le retard à l'allumage, il y a eu rapatriement de plus de 500 000 citoyens bloqués hors de l'Union européenne et la Commission a cofinancé les vols de rapatriement, création d'une réserve stratégique de matériel médical avec respirateurs, masques, tests, etc. Achat groupé de matériel médical, accueil transfrontalier, ça a été évoqué, des patients et des soignants, des mesures prises contre les réquisitions nationales, notamment de masques qui avaient été évoquées par Nora, où la Commission a un peu mis le holà aux égoïsmes nationaux qui se manifestaient, exonération des droits de douane quand même sur les importations en provenance de pays tiers pour tout ce qui touche au matériel médical, et puis la mise en place d'un fonds de 140 millions d'euros pour une recherche commune sur le vaccin, la suspension, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, des règles de concurrence en matière de règles d'État, d'aide d'État, pardon, aux entreprises, c'est énorme. Hein. On assiste à des révolutions coperniciennes de l'Union européenne qui touchent à ses bases mêmes. Donc, suspension des règles de concurrence, suspension des règles du pacte de stabilité et de croissance. Bon, vous allez me dire, on les aurait suspendues de toute façon, mais le symbole était fort de les suspendre très rapidement. Et puis, bien sûr, le plan décidé le 9 avril par les ministres de l'Économie et des Finances, validé par le Conseil européen du 23 avril, c'est-à-dire le fait qu'on a la mise en place du programme de 100 milliards pour le chômage partiel, le déblocage de 200 milliards de prêts pour les PME via la BEI et l'utilisation du mécanisme européen de solidarité. Donc il y a eu des choses très fortes qui ont été faites. Donc je rejoins ce qui a été dit sur le fait que le procès est assez injuste.
Nora Hammadi, Marion Gaillard parlait à l'instant de révolution copernicienne, notamment à propos de la suspension des règles du pacte de stabilité et puis des interventions des États dans l'économie. Est-ce qu'il y a un changement de l'Union européenne qui était peut-être attendu par pas mal de monde depuis des années, qui se fait de manière accélérée?
Alors, je dirais qu'il y a eu une révolution copernicienne dans la réponse à la crise et dans l'urgence. En revanche, je nuancerais sur est-ce que le monde de demain ressemblera au monde d'hier. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu le plan de relance franco-allemand qui a été annoncé lundi par le président de la République Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui vient s'ajouter aux 540 milliards qui avaient été d'ores et déjà décidés par les ministres des Finances de la zone euro. Donc on arrive à peu près 1 000 milliards. De l'autre côté, vous avez la position de la Commission européenne sur ce plan de relance qui devrait être présenté la semaine prochaine, qui plaide pour quelque chose autour de 1 600 milliards à peu près. Le Parlement européen qui demande 2 000 milliards. Voilà, ça c'est sur le plan de relance. En revanche, là, si on se dit qu'on a en fait presque un syndrome de l'argent magique qu'on nous disait qu'il n'existait pas, qu'il va falloir voir, et c'est là-dessus qu'on verra s'il y a une véritable révolution copernicienne, c'est va-t-on ou pas indexer ces plans de relance sur ces écosystèmes, en fait, c'est-à-dire cibler des écosystèmes, des industries qu'il va falloir relancer
avec des conditionnalités qui seront des conditionnalités du Green New Deal, c'est-à-dire des conditionnalités écologiques vertes qui vont pouvoir nous amener vers une économie décarbonée, une économie, celle du futur, qu'on annonçait comme étant la nécessité pour l'Union européenne de prendre ce virage à l'horizon 2030 puis 2050. Mais ce qu'on voit poindre aussi, et c'est ça qui va être intéressant à suivre, c'est dans quelle mesure il va y avoir une véritable révolution dans ce pacte de stabilité que, pour beaucoup, que certains appellent en fait à revoir complètement. On appelle à, enfin, que ce soit Christine Lagarde qui le dit à demi-mot, beaucoup en fait de parlementaires européens, on voit fleurir des tribunes qui appellent en fait à une révision de ce pacte de stabilité et de croissance qui, de toute façon, va apparaître comme étant absolument inapplicable à l'horizon 2021. Bruno Le Maire le disait encore dans une interview ces derniers jours. Mais là où ça va se jouer, c'est sur ce qu'on appelle le semestre européen. Le semestre européen, ce sont des règlements, entre guillemets, ce sont des préconisations qui sont portées par la Commission européenne sur des réformes structurelles que doivent embrasser les États membres de l'Union européenne. Et on sait très bien qu'elles sont d'inspiration plutôt libérale, que l'objectif, bon ça je m'appuie en fait sur des échanges que j'ai pu avoir avec des députés européens qui souhaitent, qui veulent voir une refonte complète de ce semestre européen, mais voilà, ce sont des préconisations qui sont parfois taxées en fait d'une vision plutôt libérales et qui, pour certains, doivent de toute façon être remises en question. Et ça, cela, c'est là-dessus, en fait, que va se jouer le plan de relance et la véritable révolution copernicienne. Si c'est pour revenir à une forme de business as usual, avec un dogme qui va impliquer de revenir à un endettement qui soit maîtrisé, comme on l'a vu sur le pacte de stabilité, ou de revenir à une forme de convergence sur la question des salaires qui va potentiellement tirer tout cela vers le bas, pour être un peu compétitif, etc., etc. Donc, de toute façon, cela ne fonctionnera pas. Donc, cette révolution n'est pas tant sur le plan d'urgence, parce qu'en fait, là, c'est plutôt nécessité fait loi, et il faut jouer aux pompiers, et clairement, c'est ce que la BCE, la Commission européenne et les gouvernements des États membres ont fait. Il y a un retour de l'État-providence, et massivement, et il le faut. Maintenant, c'est sur le plan de relance que ça va se jouer. Alors, est-ce que cela va impliquer cette révolution ? C'est là que j'en doute. Il va y avoir clairement des lignes de friction, comme on le voit déjà, sur l'endettement commun et sur la possibilité de transfert dans le plan de relance entre le club des radins, si je puis dire, et les pays du sud de l'Europe qui, une fois de plus, sont les plus touchés par la crise.
Bien justement, Guillaume Clossa, l'initiative franco-allemande pour un plan de relance de 500 milliards d'euros est une porte ouverte à un endettement de l'Union. Est-ce que c'est une réaction à ces reproches qui sont faits à l'Europe et que Nora Hammadi vient de résumer, hein, l'Europe coupée en deux entre pays du sud et du nord, pays dépensiers, pays cigales et pays fourmis,
oui, sans parler de radins? Non, mais il y a trois sujets. Il y a un premier sujet, c'est que la crise, si elle touche tout le monde, si elle est symétrique dans le fait qu'elle touche tout le monde, elle est asymétrique dans ses conséquences. Et un certain nombre de pays, l'Italie, la France, l'Espagne, les pays les plus touristiques, les pays qui ont été les premiers touchés, les pays les plus endettés, vont être plus touchés que les autres. Et donc là, le risque, il est simple, c'est l'implosion du marché unique et l'implosion de l'eurozone, et donc l'implosion de l'Europe. Et ça, dans un monde où les États-Unis et la Chine font de plus en plus jeu à part et sont dans une dynamique de repli, ça veut dire que l'Europe, qui est la première puissance exportatrice mondiale, notamment dans les services et dans les industries à valeur ajoutée, risque de perdre ses marchés. Et donc on a une nécessité, une urgence de survie qui est d'investir dans notre marché intérieur, dans l'Union, dans le développement du potentiel de croissance, du potentiel de relance de l'Union européenne. C'est pour ça que les Français et les Allemands ont enclenché cette dynamique. Maintenant, il y a un certain nombre de pays qui ne veulent pas aller dans cette dynamique. Il y en a cinq. Les plus compliqués, je dirais, sont les Pays-Bas et l'Autriche. Et là, moi, je pense que le souci et l'enjeu, c'est de les mettre sur le même bateau. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu plein d'initiatives de syndicats, d'entreprises ou de travailleurs, de personnalités, etc., mais qui n'ont pas inclus les membres de ces pays. Et il y a un vrai lobbying citoyen, politique, industriel à faire sur ces pays le plus vite possible, parce qu'ils peuvent empêcher la machine de fonctionner. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la philosophie du plan de relance. Il ne faut pas que ça soit, comme on l'a fait la dernière fois, un simple redressement des comptes budgétaires. De toute façon, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas que ça soit la philosophie du plan Juncker. Finalement, on a des prêts pour construire des autoroutes et ou des projets qui dataient d'il y a 10 ou il y a 15 ans. Il faut que ce plan de relance soit investi, soit tourné vers l'avenir. Et là, je trouve qu'il y a un point favorable, c'est ce que Thierry Breton appelle les écosystèmes d'innovation industrielle. Il a identifié en fait 14 secteurs à l'échelle de l'Union pour que la relance passe par des projets qui soient des projets continentaux. Et ça, c'est très important parce que c'est la condition pour éviter que les disparités s'accroissent. Et parmi ces 14 projets, il y en a un qui me tient plus particulièrement à cœur parce que j'ai travaillé dessus, j'avais fait un rapport pour la Commission, qui est un écosystème pour le numérique, les médias, la culture et les industries créatives, un peu dans l'esprit du New Deal culturel que Roosevelt avait lancé et qui a fait des États-Unis la première puissance culturelle du monde à partir de la fin des années 40. Donc ces plans, ces stratégies d'écosystème industriel, sectoriel, sont vitaux parce que c'est ça qui va nous permettre de reprendre notre place dans l'économie mondiale post-Covid. Et si on n'y arrive pas, ben on sera marginalisé.
Alors, Marion Gaillard, la condition sine qua non pour que tout ça marche, c'est qu'il faut que, en plus de la France et de l'Allemagne qui ont proposé ce plan lundi, et tous ces plans d'ailleurs, il faut que sur toutes ces mesures de relance, les 25 autres pays soient d'accord. Il y a manifestement, peut-être pas un schisme, mais un désaccord entre pays dits frugaux et pays peut-être un peu plus, qui ne maîtrisent peut-être moins leurs dépenses publiques. Est-ce que cet accord vous paraît possible? Est-ce qu'on peut y arriver?
Alors là, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein, parce que évidemment, on n'a pas toujours le temps de nuancer. Donc je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ne sait pas sur quoi ça va déboucher et que la vraie révolution, c'est que tout cela s'inscrive dans la durée, dans une vraie réflexion sur comment réagir dans les 10-20 prochaines années, notamment sortir du modèle ultralibéral. Et donc le souci, c'est qu'on n'a aucune certitude, effectivement, que ce plan franco-allemand, qui est un très très bon signal, mais qui, de mon point de vue, reste insuffisant malgré tout, mais qui est un très bon signal indéniablement, on n'a aucune certitude sur le fait qu'il soit adopté par les autres. Et on a vu dans le passé, puisque je suis historienne, je me réfère un petit peu à ce qui se passait avant, en général, le couple franco-allemand arrive à un compromis qui est potentiellement acceptable par tout le monde, parce que, c'est un cliché de le dire, l'Allemagne arrive à ramener à elle, en gros, les pays du Nord et la France, les pays du Sud, et que comme on parle la France et l'Allemagne de points de vue extrêmement éloignés, quand on arrive à trouver entre nous un compromis, ce compromis est souvent acceptable par tout le monde. Là, la question, c'est de savoir si on va pouvoir revenir à un schéma des années 80-90 où ce compromis franco-allemand, qui n'est jamais parfait, qui est toujours bancal, mais qui a le mérite d'exister, peut emporter le morceau et arriver à convaincre tout le monde. Et on peut espérer que le fait que l'Allemagne bouge fasse finalement bouger les Pays-Bas ou l'Autriche. Mais on n'a pas de certitude parce qu'on n'est pas dans la même situation qu'il y a 25 ou 30 ans, qu'on a des forces anti-européennes plus puissantes, un retour aux égoïsmes nationaux qu'on a constaté depuis des décennies. Et donc, je n'ai pas de garantie sur le fait que ce compromis puisse marcher. Ce que je sais, c'est que s'il n'y avait pas eu ce compromis, il n'y a sans doute rien qui aurait pu fonctionner, mais ce n'est pas parce qu'il y a ce compromis que ça marchera. Et en plus, au-delà de ça, il faut bien sûr adopter ce plan de relance, mais il y a un autre levier auquel il faudra penser, qui n'est pas un plan de relance ponctuel, qui est augmenter de manière très substantielle le budget de l'Union européenne, le budget classique qui est adopté de manière pluriannuelle. Et juste avant le confinement, on était dans des discussions sordides sur ce budget, avec justement cette opposition entre les pays plus dépensiers et les pays frugaux. Et là, quand on voit les discussions, maintenant on les a oubliées, mais si on se remémore ces discussions d'il y a 2 mois et demi, 3 mois, ça nous paraît de la science-fiction, tellement on se chipote pour quelques dizaines de millions d'euros. Donc là, il va falloir avoir une vraie révolution copernicienne, comme je disais tout à l'heure, aller beaucoup plus loin, parce que ce budget, il est le levier d'une Europe de la solidarité et il est le levier d'une souveraineté européenne, comme le disait Guillaume, dans le domaine d'une Europe de la culture, d'une Europe du numérique, d'une Europe de l'intelligence artificielle, d'une Europe de la défense. Donc il y a qu'on fait maintenant en conjoncturel, et il y a la façon dont on va penser l'Europe de demain. Et je crois qu'un budget à 3-4% du PIB au lieu d'un budget à 1% du PIB, c'est l'objectif qu'il faudrait atteindre si on veut une Europe de nature plus fédérale, capable à compter dans le monde, pour rejoindre ce que Guillaume disait tout à l'heure.
Nora Hammadi, est-ce qu'on peut parler du redémarrage du moteur franco-allemand? Ce sont les Allemands qui parlent de moteur, les Français parlent de couple en général. Est-ce que ce moteur franco-allemand, s'il redémarre, si on peut y croire, parce que ça fait un petit moment qu'il était un petit peu chaotant quand même, est-ce que ça peut entraîner les autres?
Alors clairement, on voit bien que au niveau européen, le couple franco-allemand, alors donc vous le rappeliez Guillaume, c'est la vision française qui fait qu'on parle de couple, on parlerait plutôt de partenariat outre-Rhin, mais on n'a jamais réussi à faire l'Europe sans initiative, sans qu'il y ait cette locomotive franco-allemande, mais il faut bien aujourd'hui se l'avouer, à 27, ça ne suffit plus. Et c'est en ça, en fait, par exemple, que Angela Merkel a toujours réussi en fait, à parler à l'Est de l'Europe, au Nord. Elle a toujours eu cette vision, enfin les Allemands ont toujours eu cette vision pluraliste en fait, mais parce que les institutions fédérales font qu'il y a une culture entre guillemets de la concertation, peut-être plus du collectif, alors que notre structure jacobine verticale, si oserais-je, jupitérienne française, fait que Emmanuel Macron est tombé en fait dans ce piège. Il a beaucoup œuvré sur le franco-allemand, tout comme avait tenté aussi Sarkozy et Hollande, en oubliant en fait les capacités à faire d'autres alliances qui pourraient permettre en fait de rééquilibrer un peu ça. C'est clair et net que sans le couple, sans ce moteur franco-allemand, ça ne peut pas fonctionner. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Autrichiens, les Finlandais, les Pays-Bas continuent en fait d'être ce club des radins. Hein. Alors, on peut les appeler les frugaux, disons les choses clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi quelque chose qui s'est passé ces dernières semaines, qui ont fait beaucoup les choses, qui ont fait bouger un petit peu les frontières. À l'Élysée, on ne s'interdisait pas de dire... À l'époque où on parlait encore de Corona Bonds, et vous le savez, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que ce mot, en fait, fait bondir nos voisins allemands.
Tabou.
C'est un tabou, donc on a changé de terme et du coup, on a réussi à passer le Rubicon. Mais on ne s'interdisait pas à l'époque de dire si jamais il y a une partie de nos voisins qui refusent d'y aller, eh ben, nous pouvons nous autoriser à réfléchir, à y aller avec ceux qui veulent.
Oui.
Et c'est l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses qui revient, et vous savez que c'est aussi ce que Emmanuel Macron a toujours voulu. Il faut se souvenir du discours de la Sorbonne, etc. Tout ça pour vous dire que si jamais, avec maintenant l'Allemagne à bord, si jamais on veut pouvoir aller de l'avant sur cette question d'endettement commun et de transfert, il y aura forcément plus de poids et les pays qui ne veulent pas entrer dans le dispositif se retrouveront eux isolés. Donc il y a peut-être quelque chose d'une stratégie là-dessus qu'il va falloir suivre.
Guillaume Clossat, et je vais vous demander de conclure parce qu'on est presque au terme de cette émission. Cette Europe à plusieurs vitesses, l'Europe des groupes limités hein, en nombre de pays qui se regroupent pour mener à bien des projets qui intéressent moins que les autres, est-ce qu'on va aller là-dessus? Ben, il faut changer les traités quand même, c'est compliqué.
J'ai longtemps cru, mais je suis très sceptique. Je suis très sceptique parce que d'une part, les pays qui bloquent sont des pays de la zone euro. Secondo, la réalité, c'est que depuis que le Royaume-Uni est parti, l'essentiel de l'économie européenne est représenté par la zone euro, le reste est marginal, et que le courage politique aujourd'hui, ça serait de fusionner les deux, fusionner l'Union et l'Eurozone, d'autant que le Danemark et la Suède, en fait, sont au change fixe, et de facto, ils sont, malgré eux, en zone euro. Moi, ce que je crois, parce qu'en effet, il faudrait changer les traités, ça prendrait 3-4 ans, et puis l'Allemagne ne voudra jamais, je crois que le vrai sujet, c'est d'organiser un vrai lobbying par rapport aux Pays-Bas, à la Finlande, à l'Autriche, et à un ou deux autres pays qui bloquent, parce qu'une grande partie de l'opinion publique est favorable à un budget européen et à une plus grande intégration européenne, une grande partie de l'opinion publique de ces pays. Et donc le sujet, c'est comment, d'un côté les citoyens, de l'autre les industriels, les syndicats, les intellectuels peuvent se mobiliser pour créer cet élan. Cet élan en Allemagne, il n'était pas si évident encore il y a un mois ou deux, comme l'ont rappelé Nora et Marion. C'est parce que l'opinion publique a changé, que des grands éditorialistes aussi ont pris position pour un budget européen. Oui. Et le budget européen, c'est pas les coronabonds. Hein.
Oui.
C'est quelque chose de complètement différent.
On n'a plus le temps de développer Guillaume Clossa, et ce sera le mot de la fin. Peut-être qu'on fera une autre émission sur les coronabonds une fois, mais je vous remercie.
Et... je crois qu'on est face à une heure historique et qu'on est prêt à faire le saut quantique. Il manque pas grand-chose pour passer à une vraie Union européenne.
Merci Guillaume Clossa. Merci également à Nora Amadi et Marion Gaillard. Prochain débat, lundi, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Bonsoir, merci.